Bienvenue au cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, autour de la table, pour débattre du livre du mois.
Jeannette, bonjour.
Jean. Pardon.
Et Bernard. Alors, nous présenterons aujourd'hui Le Dernier Lapon, un livre d'Olivier Truc. Et une fois n'est pas coutume, c'est un polar. Nous avons assez peu débattu de livres policiers, de romans policiers au cercle de lecture. Celui-ci en est un. Comme dans tout roman policier, il y a un meurtre. La victime est un lapon, un éleveur de rennes, un éleveur pas très bien considéré par les autres éleveurs, un fils de chaman, fabricant de tambours, Samy. Et puis, comme dans tout polar, il y a des policiers, deux policiers en particulier, Clémette, un policier expérimenté, un lapon qui pour les autres lapons a mal tourné puisqu'il n'est pas éleveur de rennes, il est de la police des rennes. Ça ne s'invente pas. Il y a dans ces pays du Nord une police des rennes, chargée notamment de régler les conflits entre éleveurs. Et l'autre policier est une policière, un personnage fort intéressant, Nina, une jeune policière qui vient de sortir de l'école de police, qui est du sud de la Norvège, qui ne connaît pas du tout les hautes latitudes où se passe le roman. Et puis, comme dans tout polar, il y a des suspects, notamment les autres, d'autres éleveurs de rennes, les voisins de la victime, et notamment un certain Aslak, dont nous reparlerons, qui est un éleveur à l'ancienne, qui n'a pas de motoneige, qui se déplace encore à ski, et qui est assez mystérieux. Et il y a aussi un autre suspect, ou du moins un autre personnage, André Racagnal, un Français, un géologue, il sera question beaucoup de géologie dans le livre, aussi compétent dans sa discipline scientifique qu'il est pervers, et notamment c'est un amateur de filles mineures. Et comme dans tout polar, il y a une intrigue policière, une intrigue assez alambiquée d'ailleurs, bien construite mais assez alambiquée, qui mêlera la disparition, ou plutôt le vol d'un tambour traditionnel, le meurtre de cet éleveur, et également une mine dont il sera question dans la dernière partie du livre. Alors un mot maintenant sur l'auteur, Olivier Truc. Donc c'est un Français, il n'a pas un nom en sonne comme les auteurs de romans de ces hautes latitudes. C'est un journaliste en poste à Stockholm depuis plus de 20 ans, correspondant du Monde et du Point. Le Dernier Lapon est son premier roman. Depuis, il a écrit deux autres romans et l'ensemble forme une trilogie, Le Détroit du Loup et La Montagne Rouge, qui sont la suite, enfin qui reprend un certain nombre des personnages du Dernier Lapon. Voilà, je m'arrête pour cette présentation. Alors qu'avons-nous dit, Jeannette, au cercle de lecture de ce roman ?
Je pense que le roman a été très apprécié par tout le monde au cercle de lecture, mais je pense que ce qui a été apprécié aussi, c'est ce mélange, puisque l'auteur est journaliste de profession et que c'est son premier roman, entre la fiction et une documentation extrêmement précise. Et personnellement, dans cette documentation très précise, dont Jean sans doute reparlera, ce qui m'a attiré, c'est tout ce qui concerne ce peuple Sami, donc ce peuple lapon, parce qu'il y avait des tas de choses que j'ignorais complètement. Entre autres, j'ignorais complètement qu'ils étaient les derniers aborigènes d'Europe, et qu'au même titre que les aborigènes de tout un tas d'autres contrées, qu'il s'agisse des Amérindiens ou bien des peuples d'Australie, enfin, ils avaient été éradiqués, au moins repoussés, voire éradiqués par l'avancée de la civilisation européenne, enfin occidentale, disons, voilà. Et acculturés, parce que finalement...
Nos avant-postes de la religion.
Voilà, les avant-postes de la religion, oui. Et là, en particulier, ce peuple Sami, les religieux luthérien, et même une obédience luthérienne encore plus, les laestadiens, encore plus radical, rigoristes, les pourchassaient, parce que vraiment, ils étaient considérés comme animistes, donc quasiment antéchristes, et on apprend que leur religieux, si j'ose dire, le chaman des Samis, ouais, était considéré comme le diable, et que le tambour dont se servaient ces chamans avait été détruit systématiquement par les pasteurs, au point qu'il n'en restait que 71, jusqu'au moment où, dans le livre, on découvre le 72e, mais ça, on vous le dira après. Voilà, et donc toute cette culture Sami est intéressante, et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le recul que prend l'auteur vis-à-vis du chamanisme, et que prend un spécialiste du chamanisme, en disant que souvent on exploite les Occidentaux comme des gogos, avec un chamanisme de pacotille. Juste, je vous donne deux phrases. Il a commencé à critiquer Matisse, qui est la victime,
oui.
à dire qu'en se contentant de ses tambours, il faisait le jeu des politiciens qui voulaient cantonner les Samis à un parc d'attractions culturelles pour les touristes. Et un peu plus loin, il est question du spécialiste du chamanisme, qui dit il faisait croire aux touristes qu'il était chaman, en leur servant une sorte de soupe chamanique New Age. Et c'est vrai que notre civilisation est assez, tentée par ces chamanismes ou ces animismes de pacotille.
Oui, c'est ce qui expliquerait, enfin, on peut se demander ce que signifie le titre, Le Dernier Lapon. Et effectivement, ce titre insiste sur le fait que toute cette civilisation est quasiment détruite, n'est pratiquement plus rien. Et le personnage principal, le plus intéressant d'ailleurs du livre, est le dernier représentant de cette civilisation authentique.
Lapon d'ailleurs est un terme un peu péjoratif.
Voilà, lapon, ça signifie barbare. Oui, je voulais aussi parler de la composition du livre.
Ouais.
Le livre se présente comme une sorte de journal, avec chaque fois, au début du chapitre, la date, le lieu, et puis, puisqu'on est tout à fait aux confins nordiques...
On est au nord du cercle arctique.
Voilà, ouais. Le nombre d'heures pendant lesquelles il y aura la lumière. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le livre, toute l'histoire est ancrée très profondément dans le temps, puisque quand on ouvre la première page, on lit 1693, Laponie centrale. Et donc, au début, on assiste à une scène qui se passe au XVIIe siècle.
Voilà.
Et c'est une scène très violente, avec un personnage qui s'appelle justement Aslak, comme le héros de notre roman, et qui va être considéré, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, comme le diable, et qui va finir brûlé. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est, mais on y reviendra peut-être, c'est l'histoire de ce tambour qui est chargé de transmettre des informations.
Et alors,
qui est chargé de garder la tradition.
Ce que je voulais dire, c'est que, si tu veux, ça me faisait penser, on est la ville de Bourdel, et l'une des statues les plus célèbres de Montauban est la mort du dernier centaure.
Oui.
Et on sait que Bourdel avait voulu montrer par là que la civilisation occidentale, finalement, venait à bout de la sauvagerie, disait la civilisation occidentale, de la puissance, selon Bourdel, de la civilisation antique, des mythes antiques. Voilà, et un peu ce dernier lapon, c'est aussi un peu le dernier centaure.
Et à la fin du premier chapitre, il y a un jeune garçon qui assiste totalement impuissant à l'autodafé, en quelque sorte.
C'est plus qu'un autodafé, puisqu'on brûle le chaman. Oui,
oui. Et il savait ce qu'il devait faire, et ce que, après lui, son fils devait faire et le fils de son fils. On suppose qu'il va composer un joik, hein, qui est une sorte de mélopée musicale qui leur sert en quelque sorte d'écriture.
Oui, les chamans un peu sont comme des griots aussi, ces auteurs de Gix sont voilà. Joïques un peu comme des griots.
Mais il y a ce souci de la transmission, voilà. De la transmission d'une histoire, de la transmission d'événements qui va se faire donc à travers ces joïques, là, ces chants, et à travers les signes qui sont inscrits sur le tambour.
Et alors je vous propose d'en écouter un premier, joïque. Il est chanté par Maxida Marak, qui est pour nous une illustre inconnue. Il s'appelle Naik Sounas Joik. Alors, je suppose qu'il a été réorchestré parce qu'on entend une musique tout à fait occidentale et pas inuite, enfin, et pas lapone, et pas sami. Mais la mélodie est vraiment très belle et on y retrouve ces répétitions dont il est question pour les Joïks. Voilà, donc vous voyez que le fond sonore est certainement très contemporain, mais on retrouve quand même cette mélopée. Donc je vous rappelle qu'il s'agissait d'un joïque modernisé, on n'en a pas trouvé des authentiques, chanté par Maxida Marak, Naik Sounas Joïk.
Alors je voulais revenir sur le contexte. C'est en hiver, largement au nord du cercle arctique, et il fait moins 35, moins 40 degrés. Les paysages sont couverts de neige, on ne se déplace qu'en motoneige ou à ski, lorsqu'il s'agit d'Aslak, le lapon dont on a parlé tout à l'heure. Et lorsque on fait de la distance, ils disent à plusieurs reprises que faire des centaines de kilomètres pour ces peuples du Nord, eh ben ça se fait facilement, malgré les difficultés de la nature, malgré les routes enneigées, malgré le blizzard. Malgré la neige avec tous ces pièges, ils font facilement des centaines de kilomètres, soit pour se déplacer derrière leur renne, soit pour aller faire une démarche lorsqu'il s'agit des policiers lors de leur enquête.
On peut préciser que donc toute l'intrigue, toute l'histoire se passe tout à fait au grand nord de trois pays. La Norvège, la Suède et la Finlande.
Et la Finlande.
Un petit bout de Russie.
Le fait qu'on ait tracé ces frontières a déjà détruit un écosystème qui fonctionnait depuis des temps immémoriaux, puisque les rennes ne connaissaient pas les frontières. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà un changement brutal.
Des tensions entre les pays.
Et des tensions entre les pays.
Et les éleveurs, forcément.
Voilà.
Alors, malgré les frontières, il y a un désaccord entre ces trois pays, puisque la police des rennes, dont ces deux policiers, les deux héros, font partie, est aussi transfrontalière. Ce sont des unités qui opèrent aussi bien en Norvège, en Finlande qu'en Suède.
Et d'ailleurs, les héros, enfin les policiers, les deux policiers auront à se déplacer en Suède, je crois, pour aller voir l'Institut national
de géologie.
De géologie. Ouais.
Oui. De ces trois pays.
Oui. Et en même temps, les deux policiers sont représentants à la fois des Samis, puisque Clément est Sami, et de la tradition norvégienne.
Puisque Nina est norvégienne du Sud.
Qui est vraiment un personnage très intéressant, oui. Nina.
Mais à propos de cet institut dont tu parles, Françoise, il y a quelque chose d'assez terrible du point de vue historique. Cet institut, c'est bien là où on s'occupait de mesurer le crâne des...
Non, c'est pas cet institut. Cet institut a une autre caractéristique, et ça, c'est, je la souligne juste pour dire un mot des personnages secondaires. Mmh. Elle est dirigée par une femme extraordinaire.
Ah oui.
Un caractère tout à fait remarquable. Qui non seulement est une grande géologue, elle le montre à plusieurs reprises, mais a toujours le vin blanc au frais, et elle offre à boire plusieurs fois au cours de la réception des policiers.
Non, je confonds avec un autre institut.
Voilà, c'était, je crois, des Suédois, me semble-t-il, qui lors de l'exposition de 1939
de Paul-Émile Victor
était chargé... de mesurer le crâne des lapons pour montrer qu'ils étaient une sous-race.
Voilà, il y avait des préoccupations raciales très vraiment assez
c'est détestable.
Oui. Et l'auteur a l'air de semble-t-il a découvert ça comme la fameuse policière Nina, parce que pour lui comme pour elle bien sûr, aussi bien les Suédois que les Norvégiens lui paraissaient des gens équilibrés, posés, pacifiques, ouverts,
non racistes.
Et elle découvre comment ils ont collaboré d'une part, et puis aussi détruit ce peuple sami et ostracisé, considéré comme un sous-peuple et finalement amené à devenir un sous-peuple par l'alcool.
Oui, et d'ailleurs, dans le roman, dans l'intrigue... que nous ne révélerons pas.
Non,
il y a la figure extrêmement désagréable d'un policier pourri qui s'appelle Bratsen et qui tient des propos ouvertement racistes. Et il appartient au Parti du Progrès qui ne cache pas sa volonté de détruire l'intégrité du peuple lapon.
Au moins de la marginaliser, oui.
Voilà, je vais vous parler du personnage...
De Nina.
Féminin.
Ouais,
oui,
c'est vrai que les femmes sont fortes.
Voilà, trois, à mon avis, qui sont très intéressantes.
Moins,
c'est
oui.
Eva, dont tu as parlé.
La directrice de l'Institut de géologie.
Voilà. Il y a également Berit.
Oui, une lapone.
vous les découvrirez en lisant le livre. Et puis, il y a Nina Nansen, qui est une jeune policière qui, dans le roman, cumule plusieurs handicaps. Parce que d'abord, elle manque totalement d'expérience professionnelle.
Elle sort de l'école de police.
Voilà, elle sort de l'école de police. C'est sa première affectation. Et au début du roman, c'est sa première patrouille. Donc, elle est totalement, c'est une bleue. Intégrale dans l'univers policier. Deuxième handicap, elle est originaire du sud de la Norvège et elle va donc devoir évoluer dans un monde qui lui est totalement inconnu. Et troisième handicap, c'est une femme policière dans un monde d'hommes, dans une société d'hommes. Elle va vite le découvrir avec les lapons, par exemple, lorsqu'elle va interroger Mathis, elle lui pose diverses questions, celui-ci ne lui répond pas. Et elle va le découvrir également dans le monde du commissariat avec ses collègues. Bon, je n'insiste pas, vous
verrez. Juste un mot quand même, peut-être, elle a quand même un avantage qui l'aidera à surmonter tout cela, c'est qu'elle fait équipe dans cette patrouille, avec Clément, qui lui est un policier expérimenté, d'origine lapone, et qui l'aidera beaucoup...
Pas raciste et pas sexiste,
et qui l'aidera beaucoup quand même à s'implanter, Il aidera quand même beaucoup à s'implanter dans ce milieu, comme tu l'as dit, un peu hostile aux femmes et notamment aux jeunes femmes.
Oui. Ceci dit, elle a de remarquables qualités d'adaptation, puisqu'elle va vite s'adapter au froid, au mode de transport. Elle va parfaitement conduire le scooter. D'ailleurs, Clémette dit d'elle, elle a du cran, cette fille. Et elle va par ailleurs manifester diverses qualités professionnelles qui vont permettre la résolution de l'énigme. J'ai remarqué l'autorité. Bien que femme, elle n'hésite pas à rabrouer ceux qui parlent mal à la police, par exemple le pasteur ou Bratzen, qui critique son travail à la police des Rennes.
Bratzen, le policier corrompu.
Le policier corrompu qui n'hésite pas à se moquer de Clémette. Également, beaucoup d'attention. Elle remarque les cernes sur le cadavre de Matisse.
Du lapon assassiné.
Du lapon assassiné. Elle a un grand esprit de déduction aussi. Elle va balayer l'hypothèse de règlement de compte entre éleveurs.
Mais on n'en dira pas plus.
Voilà. C'est elle qui va faire le lien entre le vol du tambour et l'assassinat de Matisse. Et puis, elle va faire le lien aussi entre le vol du tambour et les événements survenus durant l'expédition de 1939, où un géologue a disparu. Elle affiche aussi un grand sérieux. Par exemple, elle va exposer dans son bureau les différentes photos de l'expédition de 1939 et qui sont photos qui sont, selon elle, capables de faire progresser l'enquête. Et puis, elle a une magnifique perspicacité, puisque c'est elle qui va aider le savant Samy à déchiffrer les dessins du tambour. Et celui-ci, d'ailleurs, est totalement admiratif devant ses capacités d'interprétation. Et puis, et c'est peut-être le plus important, elle manifeste des qualités humaines, beaucoup d'empathie, notamment avec Berit. C'est
l'autre femme du roman.
Lapone du roman. Et c'est elle qui, avec délicatesse et affection, va l'aider à révéler ce qu'elle sait.
Et puis
nous ne dirons pas. Et enfin, elle manifeste beaucoup de ténacité, d'esprit d'initiative et même d'insoumission, puisque c'est elle qui va décider Clémette, qui est plus velléitaire, qui est plus timorée, à poursuivre l'enquête en dépit de l'interdiction de Bratzen, qui leur a demandé de revenir à leur travail de surveillance.
Et de règlement des conflits entre éleveurs.
Voilà. Donc, c'est un personnage attachant, moi, qui me fait penser, une personnalité intéressante, qui me fait penser au rôle des enquêteurs, comme Wallander chez Nick Mankell, ou bien Adamsberg dans la série, les romans de Fred Vargas.
De Fred Vargas, oui.
Mais en fait, c'est quand même
un couple. Oui.
Et alors,
c'est une équipe.
C'est très souvent comme ça, dans les séries codifié. Policières.
Ouais.
Un couple, un homme, une femme, qui n'ont pas la même expérience.
Ouais.
Mais ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien,
c'est complètement adapté.
Tout à fait.
Et les personnages sont attachants.
Ouais.
Alors, il y a un autre personnage féminin qui est aussi tout à fait touchant et tragique, c'est la femme d'Aslak.
Ouais.
Alors peut-être tu peux en parler, Françoise.
Ou Jean, si tu veux en parler, puisque tu as évoqué la femme d'Aslak.
Aslak,
c'est le lapon qui est resté très traditionnel. Hein.
Et même, on a dit là, l'autre jour au cercle de lecture, finalement, c'est une sorte de saint. Parce que il est finalement, il y a un fond de grande bonté chez lui, de grande humanité. Et sa femme est, comment on pourrait dire, elle est handicapée.
Elle est folle.
Elle a perdu la raison, pour une raison qu'on découvrira à la fin.
Une
raison qu'on ne dira pas.
Voilà. Il est d'une extrême gentillesse, humanité
oui,
avec
prévenance,
elle.
Oui. Ouais. Oui.
Et alors, pour montrer que ces samis ne sont pas sexistes, d'ailleurs les femmes ont une importance énorme hein, dans cette civilisation, les dieux sont des déesses, d'ailleurs, j'ai envie, avant de vous faire écouter un autre joïk, de vous lire des extraits d'un joïk écrit. Alors, on peut supposer que ce n'est pas l'auteur qui l'a fait, mais peut-être qu'il a pioché dans des joïks un peu amoureux. Mais les joïks sont souvent, donc on l'a dit, des récits un peu historiques, un peu à la manière des généalogies faites par les griots africains. Les jours sont longs quand je ne peux rencontrer celle à qui j'ai laissé mon cœur. Un autre passage. Tous les trésors à la même. Elle est jeune, elle est riche, elle est belle. Elle a 2000 reines qui l'aiment et les verts pâturages dansent pour elle. Alors le joïk qu'on va vous faire entendre maintenant est chanté par un homme, Jon Henrik Fahlgren, qu'il me pardonne la prononciation, et il s'appelle Daniel Joïk et il est arrangé lui aussi comme le précédent. On est toujours sur le cercle de lecture de Confluence, on vous parle du dernier Lapon. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un joïk Lapon, arrangé évidemment à la mode occidentale, mais quand même c'est un triomphe, parce que c'est en langue sami, et donc ça l'a fait perdurer.
Oui, justement, puisqu'il y a eu toute une politique, enfin très très... très très sévère, d'éradication de tout ce qui était la particularité de ce peuple. Et notamment l'interdiction de parler la langue, l'interdiction de certaines pratiques. Et ce qui m'a aussi étonné, là, c'est cette violence de la religion, de cette religion, enfin, cette religion luthérienne, mais très très... sévère.
Très radicale, oui.
Et extrêmement intolérante. Mais c'est pas spécial. Si on réfléchit, dès qu'il y a un peuple dominant et dès qu'il y a une religion dominante, il y a un phénomène d'écrasement du reste qui est terrible.
Et oui. D'ailleurs, Berit à ce sujet est intéressante parce que
Berit est lapone.
Elle est lapone. Elle s'habille en lapone. Elle est vêtue en lapone.
Et chez en elle.
Même temps,
chez
oui, elle, chez oui. elle. Mais et en même temps. Elle est issue de...
Elle a été élevée dans la religion
luthérienne. Dans la religion
luthérienne,
oui. Et elle a une morale et une religion qui est marquée. Donc, elle est entre deux cultures, en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Oui.
Et on parlait tout à l'heure de l'aspect documentaire de ce livre sur les Samis. Au passage, là, juste, j'ai relevé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur les Samis. Aucun d'entre eux ne t'a dit que le mot « guerre » n'existait pas en langue sami. Enfin, c'est une citation que je vous faisais. Tu disais, Jean, que dans des peuples du Chili, on avait un peu la
oui,
même chose.
C'est un peuple du sud du Chili dans lequel le mot « police » n'existe pas, on ne connaît pas.
Voilà.
Donc, il y a aussi... Alors, peut-être de la part de l'auteur, est-ce qu'il n'y a pas une idéalisation de tout ce monde-là, de ce monde englouti. En tout cas, une fascination, sûrement.
Certainement une fascination, oui.
Et j'ai été intéressé par l'histoire du tambour. Parce que ce tambour, ces tambours finissent dans des musées. Or, ce n'est absolument pas leur destination initiale. Ces tambours, ils ont une valeur de transmission, de tradition. Et dans le livre, le fameux tambour qui a disparu, il joue un rôle très très important pour informer, pour donner des informations sur ce qui s'est passé, sur l'histoire qui s'est passée. Mais à propos aussi de l'aspect ethnographique, moi j'ai trouvé intéressant dans le livre cet équilibre entre toutes les notations donc ethnographiques, on peut dire, et l'intrigue policière. Parce que quelquefois, on lit des romans policiers dans lesquels on a l'impression qu'on est dans un dépliant touristique hein, et que l'intrigue policière peut-être est moins importante. Et là, il me semble qu'il y a un équilibre et que tout ce qui est donné sur l'histoire de ce peuple, cette civilisation, joue un rôle par rapport à l'intrigue policière. Il y a une très bonne imbrication, il me semble.
Et bon, là, c'est peut-être autre chose, mais moi, j'ai été sensible à l'aspect suspense aussi de l'histoire, puisque les chapitres sont découpés en plusieurs unités et que finalement, l'intrigue policière s'arrête pour faire place à d'autres considérations et reprend quelques pages plus loin, si bien que le suspense est toujours ménagé.
Oui, et je me souviens que quand on s'est réunis, la discussion est portée là-dessus, c'est-à-dire que le livre nous oblige à être très attentifs, parce que de temps en temps, il y a une information qui est donnée comme par hasard, et qui va être ensuite très importante. Mmh. Et ça, on l'a remarqué.
Oui, c'est une lecture qui demande beaucoup de perspicacité au lecteur, parce que finalement, les clés de l'histoire... elles sont éparpillées, elles sont dites très discrètement, et à la fin, il n'y a pas de, en quelque sorte, de récapitulatif.
Voilà, c'est au lecteur à comprendre ce qui lui est suggéré.
Vas-y, Jeannette.
Non, mais je disais que le démarrage du livre est lent. Quand je ne connaissais pas Olivier Truc, je ne suis pas une lectrice assidue de romans policiers. Et je trouvais que bon, ça démarrait un petit peu lentement. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que ça va croissant, la tension va croissant au fur et à mesure des découvertes et que ça s'accélère jusqu'à la fin, ça devient haletant. Hein, on peut pas. Enfin, j'ai vraiment après adoré ce livre et je me suis dit que j'allais lire les autres très certainement. Voilà, ça c'est vraiment bien construit. Mais juste, j'allais dire, tout à l'heure, je disais un mot sur, outre l'ethnographie, là, j'ai appris des tas de choses que j'ignorais complètement sur la façon dont travaillent les établissements de prospection minière.
Les géologues.
Les géologues. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on n'y connaît rien, mais manifestement, l'auteur sait comment fonctionnent les géologues avec les cartes qu'ils établissent, les petits carnets qu'ils font, enfin, voilà.
Oui, et d'ailleurs, l'histoire d'une mine en particulier aura beaucoup d'importance dans le récit. C'est même l'objet central de l'énigme policière. Et bon, on apprendra toutes les convoitises des sociétés minières sur cette région, même si l'exploitation de certains minerais est interdite.
Tout à fait. Oui, on parle beaucoup de géologie, c'est vrai, dans ce roman. Ça sert l'intrigue policière, on vient de le dire, mais c'est aussi l'occasion de faire entrer en scène un certain nombre de personnages. On a parlé de la directrice de l'Institut de géologie, on a peu parlé du géologue français, qui est un personnage important.
Alors c'est très, très c'est important, oui. Ouais.
Une crapule avérée.
Mais un vrai c'est, salaud.
mais c'est quelqu'un qui fait avancer l'histoire et qui permet aussi une lecture des paysages. Je viens de le dire à l'instant, Jeannette, assez original, justement, la lecture géologique de ce vieux socle primaire de Laponie,
et qui
fait aussi le lien entre trois époques, le XVIIe siècle, qui est le tout premier chapitre, et c'est le seul chapitre qui se passe au XVIIe siècle, les années 30, la fin des années 30, avec l'expédition de Paul-Émile Victor, dont il sera à plusieurs reprises question, rentrera en scène d'ailleurs l'un des derniers témoins de cette expédition-là, et puis notre 21e siècle au cours duquel se passe l'essentiel de l'intrigue. Quoi.
Oui, et finalement tout ça est bien organisé, ça pourrait être pesant, ça pourrait être ennuyeux, et ça ne l'est pas.
Non, pas du tout.
Au contraire,
Il y a chaque fois, le lecteur est obligé a envie d'en savoir toujours un peu plus.
Oui, et on comprendra à la fin que finalement, l'histoire de la mine et du minerai, c'est l'enjeu essentiel de l'intrigue.
En tout cas, c'est un des fils conducteurs importants. Oui. Et je souligne ce que tu as dit, Jeannette, c'est une façon de faire comprendre les méthodes, la finalité et l'utilité de la géologie d'une façon pas du tout didactique, pas du tout pesante. La géologie est une science dure, mais là, c'est dit de façon plaisante.
Et puis, c'est intégré aussi à de tellement beaux paysages.
Si.
Il y avait une lectrice du livre, au cercle de lecture, qui nous a dit qu'il y avait des moments de pure poésie. Et c'est vrai. Mmh. Et c'est vrai, par exemple, lors de la contemplation d'aurores boréales, qui auront aussi beaucoup d'importance dans la résolution.
Et oui, nous sommes en hiver. Nous sommes en hiver, c'est l'époque
puisqu'elle est sur
périodes,
le tambour.
Des périodes boréales.
Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas souligné ça, que vraiment, on sent que l'auteur est familier de ces paysages et il sait nous en faire admirer la beauté.
Oui, et puis également,
Françoise.
Jean, tu en parlais, le premier moment très émouvant du retour du soleil.
Oui, alors il y a cette importance de la lumière. Il y a aussi, finalement, le roman se passe vraiment à notre époque, puisqu'il y a aussi le problème du réchauffement climatique, et qui devient problématique pour les rennes, puisque les rennes, ils grattent la neige avec leurs pattes pour manger le lichen. Mais avec le réchauffement climatique, se produit une couche
De glace
qui les empêche d'atteindre facilement le lichen. Donc on apprend beaucoup de choses dans ce livre.
Oui, on apprend aussi, par exemple, et c'était une autre lectrice qui l'avait souligné, l'originalité de la... Enfin, oui, pour nous, c'est totalement original, la nourriture des lapons. Par exemple, Aslak, lui, quand il se lève, il ne prend pas du pain et un café, mais il se fait une bouillie de sang de renne.
Et un bouillon de sang de renne.
Une bouillie, là, le matin.
Une bouillie,
et après
un bouillon.
Oui, essentiellement, la base de la nourriture, c'est le renne.
C'est le renne, le renne sous toutes ses formes.
Sous toutes ses formes,
on en suce la moelle des os, on fait du bouillon, on fait de la farine, on fait énormément de choses avec ces rennes. Oui.
Des vêtements, des objets d'art.
Tout à fait.
C'est vraiment la civilisation du renne.
Alors on peut dire aussi, il y a un détail dont on n'a pas parlé, ces pauvres rennes, on leur coupe un morceau d'oreille pour indiquer à qui ils appartiennent.
À partir le renne. Ouais.
Et il existe des sortes de dictionnaires, des entailles
marques.
Et des marques,
des marques et des entailles.
Pour régler les litiges, finalement, entre éleveurs, qui ben, quelquefois cherchent à les trafiquer.
Et alors, entailles. On peut dire aussi qu'il y aura un malheureux humain dans l'oreille.
Bah, la victime, la victime.
Comme celle des rennes.
Sera non seulement tuée, mais en plus marquée, oui, comme les rennes. Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est la. L'existence de plus en plus difficile de ces éleveurs de rennes parce que ils se sont beaucoup endettés, ils ont acheté beaucoup de matériel, des GPS, des quads,
des motoneiges,
oui, et ils ont de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes et à survivre de l'élevage des rennes.
D'ailleurs, à cela que le leur dit, moi j'ai 200 rennes. Et ça me suffit pour vivre et je peux m'en occuper. Et vous avez besoin de milliers de bêtes et
rentabiliser
donc pour rentabiliser votre affaire.
Parce qu'à cela que vient l'ancienne.
Voilà, à cela que vient l'ancienne.
À cela que vient l'ancienne.
Oui, mais et justement, on peut se demander si cette vie à l'ancienne va perdurer.
Oui.
On pense que non, puisque...
On peut même se demander si l'élevage des rennes va perdurer.
Même dans les civilisations occidentales, il y a des gens qui sont pour la décroissance.
Oui, 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 tout à fait. Mais en plus généralement, on peut s'interroger sur la durabilité de cet élevage de rennes, compte tenu de toutes les difficultés qu'ils sont à surmonter.
Je vais vous faire quelques annonces, une importante, qui est la présence à Montauban pendant quelques semaines d'une illustratrice. Qui va être en résidence chez nous et qui est vraiment très très intéressante. On l'a découverte hier soir
à
la Petite Comédie où elle nous a présenté ses œuvres et donc elle va faire plusieurs animations à la destination des publics scolaires mais aussi à la destination de tous les publics. Alors ça serait trop fastidieux de tout énumérer, mais Confluence a édité des cartes, des sortes de cartes postales illustrées par un dessin magnifique de Cécile Gambini, puisque c'est son nom.
C'est son nom, oui.
Et qui donne les rendez-vous, justement, destinés à tout public. Donc, aller chercher ces cartes. Il y en aura un petit peu partout. Et puis, rendez-vous sur le site de Confluence pour en savoir plus.
Alors, peut-être sans détailler les propositions qui sont faites, on notera quand même une animation au Muséum d'Histoire Naturelle. Cécile Gambini va l'investir, va accompagner des visites au Muséum d'Histoire Naturelle et ça sera certainement des moments forts de cette résidence. Oui. Alors, autre annonce, l'annonce de la prochaine réunion du Cercle de Lecture qui se tiendra le mardi 19 mars à partir de 14h15 à la Petite Comédie. Et le livre dont nous débattrons, c'est Le Fusil de Chasse de Yasushi Inoue. Alors on peut dire un mot, même si nous n'en avons pas arrêté la date exacte du rendez-vous suivant, qui se fera en partenariat avec la Muse, et nous débattrons d'un livre pendant le cercle de lecture, qui sera sans doute couplé avec la projection d'un film à la Muse.
Tout cela reste à l'étude.
J'en dirai pas plus, puisque le film et le livre ne sont pas encore arrêtés. Ça sera notre rendez-vous du mois d'avril.
Si cela peut se faire avec la Muse.
Alors pour terminer, restons dans les pays nordiques, je vous propose un air très connu, La mort d'Az de Grieg.
Alors, ce que nous venons d'entendre est de Crick, un compositeur norvégien. Voilà, ainsi se termine notre cercle de lecture de Confluence, et nous vous invitons à notre prochain rendez-vous le mois prochain.
Après les lapons, le Japon.
Après les lapons, le Japon, oui.